L'esprit critique. Mediapart.
Aujourd'hui, l'esprit critique vous propose de déborder le musée à travers deux lieux et un ouvrage. On se rend en effet d'abord au musée de l'Orangerie, non pas pour admirer les nymphéas de Monet, mais l'exposition consacrée au peintre américain Robert Ryman. On se déplace ensuite de l'autre côté de la Seine pour aller au musée du Quai Branly où se tiennent deux expositions temporaires. La première cherchant à déborder l'anthropologie à travers les portraits de trois femmes africaines-américaines qui furent anthropologues, mais pas seulement. La seconde étant consacrée au travail de Myriam Mihindou qui vise, je la cite, à convoquer des sens trop souvent atrophiés au sein des espaces muséaux. Et enfin, on discute du nouveau livre de la professeure d'histoire de l'art Bénédicte Savoie, intitulé « À qui appartient la beauté ?», qui revient sur la question des restitutions d'œuvres d'art conservées dans les musées occidentaux, mais pas seulement. On en parle aujourd'hui avec Magali Le Sauvage, rédactrice en chef de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et Margot Nguyen, travailleuse de l'art indépendante. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Le musée de l'Orangerie vient d'ouvrir une exposition qui se tiendra jusqu'en juillet prochain et est dédiée à l'artiste américain Robert Ryman, né en 1930 et décédé voilà 5 ans. Intitulée « Robert Ryman, le regard en acte », cette exposition aurait pu s'appeler plus prosaïquement « Carré blanc sans fond blanc », puisque c'est essentiellement sous cette forme et cette couleur que s'est exprimé Robert Ryman, même s'il n'a revendiqué le terme de « blanc » pour désigner sa peinture qu'à la fin de sa carrière. Le commissariat de l'exposition est assuré par Claire Bernardi. Alors j'ai dit en introduction que l'exposition était faite presque entièrement de carré blanc, mais en fait cela ne dit rien de l'infinité des variations qu'elle offre à qui la traverse. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Magali Le Sauvage, sur la scénographie et la peinture de Ryman?
Alors oui, tout d'abord, cette scénographie, elle est absolument splendide, à mon sens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la commissaire et le scénographe font tout à fait respecter l'esprit de Ryman. Et pour revenir sur ce blanc, en fait, l'idée de Robert Ryman, c'était pas de peindre le blanc, et justement, c'était pas comme Soulages, par exemple, avec le noir, d'explorer toutes les infinies possibilités du blanc. C'était plutôt de représenter la peinture elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, il disait que sa peinture était une peinture réaliste, ce qui peut paraître complètement paradoxal, parce qu'il y a aucun objet figuratif dedans. Mais en fait, ce qu'il peignait, c'était la peinture elle-même. Et en fait, il nous amène, et ça, c'est très bien fait dans l'exposition, parce qu'on peut s'approcher des toiles, on peut les voir aussi à distance les unes des autres. Il y a des carrés, il y a des percées qui sont aménagées dans les cimaises pour pouvoir voir les œuvres de loin, de près. Donc ça, c'est vraiment une mise en scène très intelligente de l'exposition. Et en fait, il nous amène à expérimenter la peinture de près. D'ailleurs, il y a aussi une sensation vraiment tactile, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de toucher la matière. Et donc, en fait, il n'y a pas de représentation, on n'est pas dans la représentation, on est vraiment dans une expérimentation sensible de la peinture, de la matière elle-même de la peinture. Et c'est quelque chose qui peut paraître comme ça, très intello, très conceptuel, mais au contraire, on revient à, en fait, la sensation que vous pouvez avoir quand, je ne sais pas, vous arrivez dans une maison ancienne qui a de la peinture écaillée et que vous avez envie de toucher pour voir.
On a envie de caresser l'étoile.
D'ailleurs, c'est quelque chose, bon, évidemment, on ne va pas le faire, mais c'est quelque chose qui est quand même revendiqué, c'est-à-dire cet aspect tactile, bon, dont parlait aussi Merleau-Ponty, hein, c'est-à-dire ce côté de l'œil qui a envie de toucher, quoi. Il y a vraiment cette chose-là. Et donc, je pense qu'il faut aborder l'exposition, non pas en se disant, voilà, on est... c'est pas Malevitch, c'est le carré blanc sur fond blanc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est conceptualisé, l'abstraction. Au contraire, c'est revenir à observer les petites virgules de peinture, les reliefs de peinture, ou au contraire, quand la peinture est brillante, observer, par exemple, les marges où tout d'un coup, on passe du blanc à la marge, à la toile qui est laissée en réserve, donc où on voit le grain de la toile. Et en fait, ça amène, c'est quelque chose d'un peu presque de méditation, en fait. Ça amène à observer le réel dans ses détails les plus infimes. Et c'est ça que je trouve assez bien rendu dans cette exposition.
Margot Nguyen, est-ce que vos sensations ont été proches ?
Oui, complètement. Et c'est vrai que cette expérimentation de la surface, de ses limites, mais aussi de la peinture dans son rapport avec la lumière. C'est vraiment tout ce que nous offre cette exposition qui est extrêmement bien construite. Et c'est vrai qu'on est conduit et conduite dans un parcours qui, en fait, est à l'image donc, de cette recherche très entière et authentique de Reimann, qui n'a jamais dévié de son cap. Et je trouve ça extrêmement inspirant, puisque ça montre vraiment la manière dont, en étant précis, comment est-ce qu'une recherche artistique très précise peut se développer dans le temps et en fait être une ressource infinie de variations. Certaines œuvres m'ont extrêmement marquée, comme par exemple Adelphi, cette œuvre de 1967, qui en fait présente dans ses marges et dans ses bords du papier ciré, des agrafes et des bouts de scotch qui sont en fait des rubans de masquage. Dans d'autres œuvres, Reimann utilise aussi du Tyvek, qui est ce matériau plutôt méta et bien connu qui sert à emballer les œuvres. Et donc en fait, il y a comme ça des détours et des pas de côté, des sortes de réflexion sur qu'est-ce qui constitue la bordure, le cadre, le débordement du cadre, et c'est fait tout en subtilité et en maîtrise. J'aime aussi beaucoup ces œuvres qui sont présentées donc à l'horizontale, qui nous font voir les tranches, et je trouve que vraiment l'exposition réussit à mettre en scène, pour les personnes qui la visitent, ce souhait de l'artiste, en fait, de regarder autrement la peinture.
Oui, qui était aussi attentif vraiment à l'accrochage. Il y a des moments où on voit les pattes apparaître, on voit les tranches, on voit tout ça. Et il en fait, c'est pour ça qu'effectivement, c'est derrière le côté « ah bah, il n'y a que du blanc ». En fait, on nous explique assez bien d'ailleurs en quoi c'est d'abord un travail sur la lumière et ses ombres, l'ombre faisant partie du tableau. Il écrit même « les cadres ont une raison d'être, c'est de faire sortir la peinture et non de l'y enfermer ».
Exactement. Et puis le mur, en fait, est aussi important que la peinture elle-même. Et il explique. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que il y a un catalogue très beau qui a été édité. Et c'est un défi aussi pour reproduire ces images. C'est-à-dire qu'en fait, en photographie, ça n'a pas de sens du tout. Il faut voir ses œuvres sur des murs. Il y a aussi cette question des collectionneurs, des tableaux qui sont dans des collections privées. Alors, les musées étant des institutions publiques qui montrent les œuvres au public, elles sont bien forcées de respecter les consignes de l'artiste. Mais par exemple, ça n'a pas de sens de mettre ces tableaux sous un verre, par exemple, de protection, puisque là, on n'a plus du tout accès justement à cette proximité avec la matière. Et puis, comme vous disiez, il a aussi expérimenté tous ces accrochages différents qui font autant partie de l'œuvre que l'intérieur de la peinture elle-même. Et en fait, c'est quelque chose qui est dans une grande générosité aussi, je trouve, paradoxalement, parce que ça paraît comme ça, voilà, on se dit, bon, on entre dans une salle où en fait, c'est des murs blancs, il y a des toiles blanches sur des murs blancs. Bon, on peut passer comme ça, en fait, devant, en se disant que c'est quelque chose de très inaccessible. Et en fait, au contraire, il y a quelque chose de très généreux, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment... Il offre, en fait, aux spectateurs, aux spectatrices, il offre, en fait, le loisir de s'approcher le plus possible de l'œuvre et d'être dans une espèce d'empathie, je ne sais pas si on peut dire ça avec un objet, mais en tout cas de proximité et d'intimité, en fait, qui est assez belle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de discours autoritaire, il n'y a pas du tout de... Il ne dit pas, voilà, moi, je vous montre ça, il faut comprendre ça. C'est chacun, en fait...
Mais d'ailleurs, on peut souligner qu'il y a deux cartels différents. Il y a des cartels, très explicatifs, mais il y a aussi des cartels pour enfants qui sont parfaitement bien faits.
Moi, je me suis totalement reconnue.
En fait, j'avais tendance à suivre les conseils. On signe des cartels pour enfants qui s'adressent en vous disant si tu regardes là, et si tu t'éloignes un peu. Et j'ai trouvé que c'était variation. Exactement la bonne manière de traverser l'exposition.
Complètement, ce registre de médiation, il est...
Et ça, il faut reconnaître ce travail du musée, je trouve très, 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 très bien. Enfin, c'est rare que ce soit aussi bien fait et que ça parle autant aux adultes qu'aux enfants. Ça prouve quand même un travail très minutieux.
La commissaire d'exposition juge que c'est quand même là. Donc, il y a déjà eu une présentation d'ampleur de travail de Reimann, mais au début des années 80 en France, que c'est la deuxième fois vraiment qu'il est montré comme ça, et que ça permet, alors elle dit, de ne pas le réduire au courant minimaliste américain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, et qu'est-ce que ça signifie pour vous, Margot Nguyen?
Oui, c'est vrai que... On a une image du modernisme américain, aussi par la critique Greenberg, etc., qu'on nous enseigne dans une histoire de l'art classique, avec des réflexions très auto-référencées ou auto-référentielles. Et c'est sûr que moi, Reimann était beaucoup moins connu. Et en fait, l'exposition m'a amené à réfléchir en différenciation de ce grand courant. Donc, je comprends cet argument et je trouve qu'il est rendu sensible et palpable dans la manière dont il nous est retransmis.
Et palpable peut-être notamment Magali le Sauvage dans la manière dont à un moment ça prend un tournant quasi en sculptural. C'est-à-dire qu'on reste avec des carrés blancs, mais ils sont présentés de telle manière que on n'est plus simplement dans des formes de minimalisme de peinture.
Oui, ça c'est intéressant parce qu'en plus il fait ça dans les années 80 où c'est le moment du grand retour à la peinture justement dans l'art contemporain et où on a ces peintres expressionnistes, les combats, etc. Donc des choses qui sont quand même à l'extrême opposé, qui sont très expressives et où l'art minimal et l'art conceptuel commencent à être un peu ringardisés, on va dire, dans l'art contemporain. Et donc lui, justement, là, il se met à faire des choses qui sont plutôt sculpturales alors que tout le monde se remet ou se met à la peinture. Donc ce qui trouve quand même une liberté d'expérimentation assez folle. Enfin, cette ligne, il la suit pendant 60 ans de sa vie. Il va dans tous les sens et en fait, on le suit, quoi. Finalement, on continue à le suivre. Il y a une certaine logique qui est assez épatante, quoi. En fait, moi, je trouve à suivre comme ça son cheminement. Et puis, je pense qu'on peut même aller peut-être jusqu'au bout de l'exposition, qui est cette dernière salle, donc où ce sont des toiles de 2010, donc qu'il a réalisé peu avant de décider d'arrêter de peindre. Il a 80 ans, je crois, en 2010. C'est une série de toiles qui d'ailleurs appartiennent toutes à la collection Pinault. Donc ça, c'est intéressant de noter quand même qu'elles sont toutes rassemblées au même endroit. Et bon, je pense que c'est important qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres. Et en fait, on voit des fonds colorés de différentes couleurs, assez relativement vives. Les couleurs d'ailleurs sont assez belles, qui sont recouvertes d'un blanc comme ça. Comme si en fait, c'était comme des caches et que derrière, en fait, il y avait du réel, justement. Il y avait peut-être un paysage, peut-être un portrait, peut-être quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est extrêmement beau parce qu'en fait, là, on n'est toujours pas dans la représentation de quelque chose, mais on est quelque part entre les deux. Et en fait, donc chacune peut projeter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y a peut-être rien, c'est peut-être juste de la lumière, de la couleur. Enfin, je trouve ça extrêmement émouvant parce qu'en fait, on arrive à la fin de sa vie. Et en fait, là, il y a la couleur qui commence un petit peu à percer derrière et on s'arrête là. Et ça, c'est très beau, je trouve.
Et qui fait écho aux œuvres des années 50 qui ouvrent l'ouverture, où il y avait déjà cette couleur qui était... Donc, c'est comme si la boucle se bouclait, et c'est très émouvant.
C'est très beau.
Et alors, il faut bien dire quand même que dans cette dernière salle, il y a aussi trois tableaux de Monet, trois représentations de la cathédrale de Rouen. Donc bon, c'est pas quand même totalement neutre que le travail de Reimann soit présenté au musée de l'Orangerie, célèbre pour les nymphéas de Monet. Est-ce que ce dialogue amorcé, est-ce qu'il vous a semblé justifié et judicieux?
Alors, moi, j'ai lu par ailleurs que Reimann refusait de participer à des expositions collectives et que ses œuvres soient placées à côté de celles d'autres artistes. Ce qui est intéressant, ce qui peut paraître là, pour le coup, assez autoritaire. Alors, c'était pas par prétention, je pense que c'était parce que c'était peut-être une autre catégorie. Et justement, je pense qu'il voulait pas être mis à côté des artistes de l'art minimal, qu'on mélange un peu tout. Après, voilà, le musée de l'Orangerie, c'est un peu le musée de l'impressionnisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a donc ces chefs-d'œuvre des nymphéas qui sont au-dessus, qui ont été peints en plus par Monet pour ce lieu expressément, donc c'est vraiment in situ, quoi. Et donc on a ces trois cathédrales de Monet où il y a justement là des variations du blanc, puisqu'en fait c'est une façade qui est blanche, mais avec les variations des couleurs du jour, du matin au soir, elle passe du vert au bleu, au rose, au jaune, etc. Et donc c'est une variation sur le blanc où il y a pas de blanc en fait. Et donc c'est assez judicieux dans ce sens-là de les mettre là. Après, Pour moi, c'est peut-être un petit peu accessoire de les mettre. C'est toujours un grand plaisir de les voir, mais je ne suis pas sûre que c'était indispensable de les mettre dans la même salle. Peut-être les mettre après, je ne sais pas. Mais en tout cas, les mettre dans la même salle, ce n'était pas forcément indispensable parce que du coup, forcément, ça atténue un peu la force de la série Reimann dont je viens de parler. Et je ne suis pas sûre que c'était vraiment nécessaire. C'est intéressant, mais ce n'est pas indispensable à mon avis.
Sachant qu'il y a un autre mini point de comparaison, c'est que Reimann a peint une série de 5 peintures qui s'appelle la Charter Series, elle-même inspirée de la Chapelle Rothko, elle-même inspirée des nymphéas de Monet. Donc c'est peut-être là qu'il y avait une volonté de tirer un lien, mais c'est peut-être un petit peu superficiel, enfin pas superficiel, mais en tout cas non nécessaire.
Je suis assez d'accord.
Une dernière question, il se trouve que Robert Reimann, et c'est on peut être tenté forcément d'y voir quelque chose, a été pendant 10 ans gardien de musée avant de devenir peintre. Il a failli être un musicien de jazz professionnel.
Il était
un musicien de jazz professionnel. Non, mais il en a moins fait sa carrière, c'est ça que je voulais dire, que de celle de peintre. Est-ce que ces deux activités se ressentent quelque part dans sa peinture?
Oui. Non, la question du rythme et de la musique. Non, pardon, je réfléchis très, très juste. Bah oui, non, la notion de regard... vraiment, enfin, je trouve que c'est une peinture qui invite à être regardée. Enfin, oui, non, ça m'étonne pas qu'il ait fréquenté beaucoup des salles de musée.
Il est passé 10 ans assis sur une chaise.
C'est magnifique, c'est incubé, c'est digéré, et c'est comme si c'était retransmis et redonné, en fait, dans ce qu'il propose. Et après, pour la musique et le rythme, oui, je pense que dans la rigueur de la variation, enfin, on le sent bien, hein, dans cette obsession de travailler des variations subtiles à partir d'une idée. En fait, il y a quelque chose de très musical. Enfin, c'est paradoxal, de très silencieux et de très musical dans ce qui est proposé. Donc, ouais,
Et puis, c'est un musicien de jazz, et donc il y a cette idée d'une grille et de variations autour d'une grille, en fait, aussi comme dans le blues ou le jazz, où en fait on a une structure et à partir de cette structure, on improvise. Et donc, je pense qu'il y a ça quand même qui reste dans sa peinture. Et par rapport au gardien de musée, on a l'impression qu'en fait, il avait toutes les images, il les avait en tête et qu'il n'a pas voulu rajouter d'images aussi en plus. Il y a ça, je trouve, qui est assez beau, en fait. C'est que c'est pas la peine de rajouter des images. Tout est déjà là, en fait. Et donc, quand je parlais de générosité, il y a ça aussi, je trouve.
L'exposition Robert Reimann, Un regard en acte, vient d'ouvrir au musée de l'Orangerie et elle dure jusqu'au 1er juillet prochain.
L'esprit critique. Mediapart.
On part au musée du Quai Branly pour évoquer deux expositions se tenant sur les mezzanines de la galerie principale du musée. Deux expositions petites par leur taille mais ambitieuses par leurs propos. La première tourne autour de l'œuvre de l'artiste Myriam Mihindou et s'intitule Ilimb, l'essence des pleurs. La seconde veut, selon son titre, déborder l'anthropologie. La première est donc consacrée au travail de cette artiste franco-gabonaise qui a choisi pour titre un mot issu de la langue Pounou qui désigne la trace des larmes tissées par la résine qui se consume, une manière d'évoquer pour elle le décès de son père et les rites d'accompagnement du mort par les pleureuses. La seconde est centrée sur trois figures féminines, anthropologue mais pas seulement, Zora Neale Hurston qui fut aussi romancière et dramaturge et est devenue une référence importante pour beaucoup d'autrices féministes noires, Eslanda Good Robson, anthropologue mais aussi militante anticoloniale et antifasciste, et enfin Kathleen Dunham, qui fut également danseuse et chorégraphe. On ne va pas artificiellement traiter ensemble ces deux expositions qui sont indépendantes, même si elles sont toutes deux dédiées à des femmes noires. Donc commençons avec celle de Myriam Mihindou, dont le commissariat a été assuré par Sarah Ligny et Nathalie Gontier. Comment est-ce qu'elle se présente simplement et qu'est-ce qu'on y voit, Marco Nguyen?
Donc c'est une exposition qui travaille vraiment un parcours tactile, olfactif et sensoriel. Je trouve que cette stimulation de tous les sens à travers l'exploration de différents matériaux, que ce soit une grande liane qui, lorsqu'on la touche, active une pièce sonore, est vraiment une œuvre magique, quoi, puisque non seulement on est invité à la toucher, mais en plus il se passe quelque chose dans l'espace d'exposition.
Il faut bien dire, ouais, c'est une grande liane qui va quasiment tout le long de l'exposition et on vous est invité à se placer sur un petit cercle et à toucher pour,
exactement, pour
ressentir
activer,
quelque chose. Et vous l'avez ressenti.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc face à cette grande liane qui est un peu le fil rouge, qui trace une ligne vraiment claire dans le parcours, différents médiums sont représentés, la céramique, puisque Myriam Mihindou a travaillé avec le craft de Limoges pour reproduire en céramique en fait, des harpes gabonaises conservées dans la collection du musée du Quai Branly. D'autres ensembles de céramique se trouvent au fond de la salle, face à des très beaux dessins sur papier coton. Et on a également cette œuvre très marquante donc, du cheval psychopompe, le cheval qui accompagne les âmes des défunts, qui est faite avec des pièces métalliques. Donc c'est un parcours tout en sensibilité et en exploration matériel qui a vraiment été pensé par l'artiste autour de cette colonne vitrée des collections du musée, donc cette colonne en verre qui présente une collection d'instruments de musique. Moi, je trouve que l'exploration des matériaux et le pari olfactif, sensoriel, musical est réussi, mais je déplore que l'espace de la mezzanine étouffe un tout petit peu la recherche plastique de cette grande artiste. Et de même, je trouve que la mise en dialogue avec les instruments de musique et la collection du musée est peut-être tenue à distance ou un petit peu trop lointaine. Et pour moi, d'un point de vue vraiment scénographique et muséographique, ce dialogue ne se déploie pas vraiment. Voilà.
Oui, alors, c'est une des questions centrales qu'on peut se poser, même quand on ne connaît pas le travail de Myriam Mihindou, c'est de sa place là, dans ce musée-là, et dans cette volonté à la fois de dialoguer avec les collections, mais quelque part en leur redonnant vie. C'est ça qu'elle dit, c'est qu'elle a dit qu'elle a senti un peu les, notamment ces harpes sacrées du Gabon, qu'elle a voulu les reproduire en céramique et un peu les sortir des vitrines. Mais est-ce que cette expérience différente justement du musée et ce dialogue, est-ce qu'il parvient à se tisser, Magali Le Sauvage?
Malheureusement, pas tellement, mais ça, c'est dû, je pense, à la scénographie du musée du Quai Branly en général. C'est-à-dire que, par exemple, justement, la grande colonne dans laquelle se trouvent conservés les instruments de musique du Quai Branly, de tout continent confondu d'ailleurs, se trouve en fait derrière une grande vitre qui, en fait, subit des reflets très forts. Ce qui fait qu'en fait, vraiment, pour les voir, il faut faire un effort important. Et c'est la même chose en général dans les collections permanentes du Quai Branly. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de visibilité des œuvres avec ces vitrines qui reflètent la lumière et qui font que vous voyez vraiment très mal les œuvres. En plus, on est à moitié dans la pénombre. Les spots sont mal placés. Enfin, vraiment, bon, ça fait 10 ans qu'on le dit.
L'inverse de Robert Reimann.
Voilà. Non, mais ça fait depuis, je ne sais plus, 10 ou 15 ans, 15 ans peut-être que le musée a ouvert. Et c'est depuis le début, c'est un problème. C'est-à-dire que vraiment, on voit très mal les œuvres. Enfin, on a toujours très mal vu les œuvres. Et donc, là, les œuvres de Myriam Mindou, pour le coup, ne sont pas derrière des vitres. Donc, on les voit bien. Mais le dialogue se fait difficilement puisque en fait concrètement il y a un manque de proximité visuelle entre les deux, et donc je trouve ça une très bonne idée qu'elle ait voulu dialoguer comme ça, notamment avec les instruments de musique qui ont donc cette âme, hein, comme on parle d'un violon qui a une âme, enfin qui dont le corps est une âme, qui donc s'exprime, qui ont voilà du son qui sort. Sauf qu'en fait, ce très beau travail donc où elle mélange les sens, etc., il est très beau en lui-même, mais le dialogue avec les pièces du Quai Branly ne se fait pas, à mon sens, malheureusement. Et aussi cet espace donc qui est tout en longueur, avec cette liane matrice qui effectivement nous guide un petit peu comme ça, qu'on peut suivre de la main en plus pour aller jusqu'au bout, en fait, est très étroit. Enfin, les œuvres se perdent en fait aussi les unes les autres. On comprend pas très bien le parcours. Enfin, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est quand même vraiment dommage qu'une œuvre qui en fait a une cohérence très forte dans le travail de Myriam Mindou, il y a vraiment une cohérence très forte. Et là, malheureusement, c'est un peu, ça se dissout en fait. Enfin, ça perd de sa cohésion à cause de cet espace assez ingrat. Il faut savoir que elle sera exposée à la fin de l'année au Palais de Tokyo, dans des espaces complètement différents, évidemment. Donc voilà, on attend aussi de voir ce que ça donnera là-bas. D'ailleurs, cette exposition, elle dure, je crois, l'exposition du Quai Branly, elle dure jusqu'à la fin de l'année pour qu'il y ait quand même
entre
un moment où ouais, les deux soient visibles en même temps. Mm-hmm. Mais on attend de voir son travail en France mieux exposé. Il l'avait été à la Verrière à Bruxelles, d'ailleurs, par Guillaume Desanges, le président du Palais de Tokyo, donc voilà, bon, qui suit l'artiste. Il avait été présenté donc à la Verrière à Bruxelles, qui est un espace carré où justement, qui doit faire la même surface à peu près que celle qu'elle a au Quai Branly aujourd'hui, mais sauf que c'était un espace carré, donc il y avait quelque chose de beaucoup plus où on était vraiment, on se sentait au milieu de son œuvre. Là, c'est dommage qu'on puisse pas vraiment entrer dedans.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je le citais en introduction, elle dit cette ambition de convoquer des sens trop souvent atrophiés au sein des espaces muséaux, qu'ils soient olfactifs, tactiles ou auditifs. À la fois, il y a ça, mais moi, c'est vrai que j'ai eu parfois l'impression que, contrairement à ce qu'on peut attendre de cette ambition, c'est-à-dire qu'il reviendra un peu à redonner vie à des instruments de musique, des collections cachées effectivement derrière des vitres un peu opaques ou trop de reflets, qu'au contraire, des fois, moi, je ne l'ai pas complètement senti dans l'exposition, ces sens différents, et que c'était plutôt l'espace de collection du musée du Quai Branly qui débordait sur l'exposition Mindou que l'inverse.
Complètement, et je pense qu'en plus la sensibilité de ce travail, c'est aussi laisser la place aux détails et à tout ce qui est subtil dans les détails. Et je pense par exemple dans cet ensemble de céramique au fond de l'exposition, il y a une empreinte de chaussures très délicate comme ça qui marque le grès. Et en fait, toute cette attention aux détails, pour moi, elle ne peut trouver résonance que quand elle est mise en espace, dans un espace qui lui permet vraiment de se déployer. Et après, bon, il y a des efforts qui sont faits. Je pense là, on peut dire que toute la signalétique est faite sur des sortes de voiles, des voiles un peu flottants. Donc, je pense que c'est conceptuellement, ça veut coller à cette pensée de la légèreté ou de quelque chose de très spirituel qui fait partie de la pratique de l'artiste, mais qui a du mal à s'incarner dans l'espace muséal, en fait.
Ouais. Moi, juste pour revenir quand même sur certaines œuvres, je trouve qu'effectivement, les céramiques aussi, l'espèce de vase, par exemple, qui est comme pétri, où on voit les traces de sa main, où en fait, on sait que c'est de la terre mélangée avec du kaolin et avec du sel. Ça s'appelle toutes les larmes ou quelque chose comme ça, dans un terme en langue pounou. C'est extrêmement émouvant parce que donc, il faut dire aussi qu'elle a fait cette série d'œuvres suite à la mort de son père. Et donc, il y a quand même quelque chose où elle est là. On sent qu'elle a créé cette œuvre en luttant avec la matière et donc comme une sorte de catharsis ou de manière d'exprimer en fait aussi son chagrin comme ça, en malaxant la terre, en la serrant, en essayant d'attraper quelque chose qui lui échappait à ce moment-là. Il y a du sel aussi dans la terre mélangée, donc on pense au sel des larmes. Enfin, en fait, c'est un travail qui est très subtil et qui, effectivement, là, bon, n'est pas forcément très bien rendu dans sa subtilité, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça, de s'approcher des œuvres et peut-être de faire abstraction, à la limite de faire abstraction du musée, de se concentrer sur ces œuvres qui sont très fortes et qui sont très accessibles aussi à des sentiments très,
très,
très intimes, ouais. Voilà, et très sincères, ouais. Exactement.
On change de mezzanine et d'exposition en se dirigeant vers celle intitulée « Déborder l'anthropologie », consacrée à trois femmes noires américaines qui ont été anthropologues, mais pas seulement. Si elles ont débordé l'anthropologie, ce n'est pas seulement parce qu'elles étaient aussi romancières, militantes ou chorégraphes, mais aussi parce qu'elles ont bousculé une discipline, l'anthropologie, dont on connaît les origines coloniales, alors qu'elles se plaçaient toutes trois dans une perspective antiraciste, antiségrégationniste et anticolonialiste. Le commissariat de l'exposition est assurée par Sarah Friou-Salgas. Alors moi, j'avoue avoir découvert l'existence de ces trois femmes avec cette exposition. Donc peut-être que le mieux est de commencer en les présentant chacune. Vous commencez, Margot Nguyen ?
Oui. Bah déjà, ouais, vraiment, moi, gros coup de cœur pour cette exposition sur la mezzanine d'en face. Et je trouve que cette exposition qui est plus historique, en fait, réunit un certain nombre de documents. Là aussi, il y a un vrai effort pour mettre des extraits sonores, des photographies. Enfin, je trouve que ça documente de manière très, très vivante les parcours de vie de ces trois femmes. Et ça montre extrêmement bien la manière dont elles ont articulé une pratique de l'anthropologie à une production artistique, qu'elle soit littéraire ou alors dans la danse. Et je trouve que la manière dont la commissaire, Sarah Friou-Salgas, a vraiment créé un lien entre terrain anthropologique et approfondissement d'une démarche artistique. C'était extrêmement inspirant et ça s'est ressenti dans la manière de présenter leur parcours. La première, Zora Neale Hurston, développe un intérêt pour le folklore.
Moi, je vais juste faire les dates. Née en 1891 et morte en 1960.
Oui. Pardon. Donc, développe un fort intérêt pour la collecte de légendes, de proverbes, de récits, de chansons. Et tout cet intérêt pour le folklore se double aussi d'un intérêt pour les rituels, pour certains rituels, notamment des rituel vaudou. Il y a cette photo extraordinaire où elle performe en fait son terrain et où elle fait la danse du corbeau aux Bahamas. Et donc cette première figure, en fait, l'exposition nous montre très bien comment est-ce que tout ce terrain est réinjecté dans une production de nouvelles, de romans et de spectacles que je trouve fascinant. La deuxième figure, qui est Eslanda Good Robson, est pour sa part une figure politique. C'est la militante décoloniale et antifasciste qu'on nous présente.
Donc, née en 1895 et morte en 1965.
Si. Et qui déménage à Londres, qui s'installe en Angleterre et qui fait beaucoup de terrain en Afrique du Sud notamment. Et donc là, on est sur une figure, sur l'analyse plutôt d'une trajectoire politique.
Et la troisième, on va laisser Magali Le Sauvage la présenter. Ouais. Catherine Dunham, et moi je vais toujours faire les dates. Elle a vécu beaucoup plus longtemps puisqu'elle est morte en 2006 à 96 ans.
Voilà. Donc qui elle était une pionnière de la danse moderne qui est malheureusement assez mal connue en France, alors qu'en fait, en visitant l'exposition, on se rend compte que son ballet Southland, il y a eu une unique représentation mondiale en 1953 au Théâtre de Chaillot à Paris, et que cette pièce qui avait fait scandale et qui a été censurée ensuite aux États-Unis montrait à la fin une scène de lynchage d'un noir qui évidemment donc évoquait des épisodes du sud des États-Unis. Et donc c'est quand même assez étrange que cette histoire-là ne soit pas connue
en
France.
Oui, là, on voit quand même le décalage d'un bord à l'autre de l'Atlantique.
Bah, surtout que cette pièce a été présentée à Paris. Donc, ouais. C'est quand même assez étonnant qu'on la prenne.
Enfin, ouais, je parlais des mémoires moins en temps des circulations que des mémoires qui sont faites justement de...
Voilà, pourquoi est-ce que nous, Parisiens, Français, la prenons... Enfin, en tout cas, nous, parce qu'évidemment, il y a des gens qui le savent, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas très connu. Et donc, c'était une danseuse et une chorégraphe qui aussi était militante contre la ségrégation aux États-Unis, qui a tourné dans le monde entier et qui a étudié en particulier aussi les danses dans les Caraïbes françaises, d'ailleurs, notamment en Martinique, qu'elle a filmé. Et ensuite, donc ça, c'était son travail d'anthropologue, mais étant aussi danseuse et chorégraphe, elle a souhaité aussi apprendre ses danses et ensuite les retranscrire dans ses ballets. Et ce que je trouve intéressant, moi, dans l'exposition, c'est que ces trois femmes, en fait, de par le fait qu'elles étaient africaines-américaines, se sont impliquées en tant qu'anthropologues aussi dans l'histoire des qui était peu étudiée à ce moment-là dans l'anthropologie, non seulement des communautés africaines-américaines, donc dans le sud des États-Unis, par exemple en Louisiane ou en Floride, mais aussi donc en Afrique même et aussi dans les Caraïbes. Et donc c'est quand même un certain changement aussi dans l'anthropologie.
Oui, c'est ça. C'est pas déborder l'anthropologie, c'est pas simplement avoir une autre activité qu'anthropologue, comme on pourrait le croire, puisqu'elles ont toutes fait autre chose. C'est changer la manière de l'appréhender. Ouais.
Et puis, c'est pas être dans le rapport à l'autre, comme on dit, qui quand même est quand même le gros défaut de l'anthropologie. Enfin, s'il y a un défaut, c'est bien celui-là, c'est qu'il y a nous et les autres. Et que là, justement, il y a cette idée de retrouver un peu, pas des origines, parce que cette quête, on sait qu'elle est un petit peu vaine, mais en tout cas, retrouver une africanité, je pense. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à un livre qui a été traduit récemment en français de Saadia Hartman, qui s'appelle « À perte de mère »,« Lose your mother » en anglais, qui a été traduit par Mabula Soumaoro et qui est édité par les éditions Brook, qui est cette chercheuse, donc Saadia Hartman, africaine-américaine, qui en fait est allée au Ghana et est allée pour essayer de comprendre en fait l'esclavage, comment ça avait pu avoir lieu. Et en fait, elle mêle son travail de chercheuse, sociologue, historienne, à évidemment le fait que ce soit une femme noire américaine qui arrive en Afrique, où en fait elle comprend que, si vous voulez, il y a une sorte d'impasse, d'impossibilité. C'est-à-dire qu'en Afrique, on lui dit non, mais toi, t'es une américaine, t'es pas comme nous, on peut pas vraiment se parler. Et aux États-Unis, évidemment, elle subit le racisme puisqu'elle est noire. Et donc, en fait, on voit que c'est d'ailleurs intéressant que ce soit beaucoup des femmes aussi qui soient dans ces démarches-là, parce qu'il y a quelque chose de, je pense, de. D'une sorte de condition, de sous-condition, hélas, des femmes, qui fait que peut-être l'idée de retracer ces histoires est d'autant plus importante.
Myriam Mindou, L'essence des pleurs et Déborder l'anthropologie ont toutes deux ouvert au musée du Quai Branly Jacques Chirac le 6 février dernier. La première est visible jusqu'au mois de novembre, tandis que la seconde vous attend jusqu'au 12 mai.
L'esprit critique. Mediapart.
On termine cette émission non pas avec une exposition, mais avec un ouvrage sorti récemment. Il s'intitule « À qui appartient la beauté ?», est publié par les éditions La Découverte et signé Bénédicte Savoie. Cette professeure d'histoire de l'art à Berlin, passée également par le Collège de France, est la co-autrice avec l'intellectuel sénégalais Felwin Sarr du rapport remis à l'Élysée sur la restitution du patrimoine africain. Elle a signé l'an dernier au Seuil un livre intitulé « Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale ». Et elle propose cette fois un parcours plus large et plus grand public qui reprend ses recherches et son travail en suivant le parcours d'œuvres, éléments de rites ou de décorations, artefacts qui se sont retrouvés dans les musées occidentaux, le buste égyptien de Nefertiti exposé à Berlin, l'autel de Pergame transporté de Berlin dans le cadre d'un accord avec l'Empire ottoman et réclamé aujourd'hui par la Turquie, les têtes de bronze du palais d'été de Pékin, la statue de la reine Bangoua du Cameroun, ou aussi le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt, ou bien encore les trésors royaux du Bénin. Peut-être un premier mot sur le choix d'écrire ainsi une histoire à partir des objets, comme quasiment des monographies. Est-ce que cela déplace ou ajoute quelque chose par rapport aux précédents travaux de Bénédicte Savoie, Margot Nguyen?
Ben moi, j'avais lu la leçon introductive en fait, de son cours au Collège de France, qui s'appelait « Objet du désir, désir d'objet », dans la suite de quoi en fait, cette publication s'inscrit. Et je dois dire que je me suis vraiment laissée captiver et transportée par ces exemples, ces différents exemples, que je trouve extrêmement pertinents dans leur variété, en fait, puisque c'est vraiment des cas de figure tous très différents, en fait, qu'elle analyse et qu'elle étudie.
Oui, c'est pas du tout seulement le pillage colonial de l'art africain auquel elle est souvent identifiée.
Voilà, et je trouve que cette mise en perspective du fait de ce qu'elle appelle les translocations, donc la mise en exil des objets, elle est extrêmement intéressante pour réfléchir à une échelle plus large. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la manière dont elle croise des écrits d'artistes, en fait. Donc, c'est très intéressant de voir que à chaque étape du parcours de ces objets ont été regardés par les artistes. Et donc, cette histoire de la réception, en fait, je trouve qu'elle est très présente dans le livre et elle est très, très bien amenée. Et tout ça est croisé à d'autres perspectives, des perspectives plus géopolitiques. Il y a beaucoup de cartes et de schémas, mais aussi beaucoup d'analyses politiques, en fait, des rapports de force, en fait, dans la constitution des collections au 19e. Et c'est ça aussi la force de ce livre, c'est de montrer qu'en fait, il s'agit, dans la construction et l'érection des musées au 19e, il s'agit aussi d'une course à l'impérialisme et à la, enfin voilà, d'une rivalité entre les empires donc britanniques, prussiens et français. Enfin, c'est quand même ce schéma-là qui revient constamment à travers les exemples. Et j'ai aussi beaucoup aimé la manière dont elle peut le transliter ou le relire, enfin venir jusqu'au présent, puisque donc notamment dans ce dernier exemple des restitutions de novembre 2021 et de l'arrivée des objets à Cotonou, on se rend bien compte que toute cette perspective historique, en fait, elle vient activer quelque chose dans le présent. Et c'est ça qui est assez formidable aussi, c'est de se dire que de regarder l'histoire permet aussi de proposer des gestes de réparation, ou en tout cas de la réflexion et d'activer
qui se trouvait précisément dans le rapport qu'elle avait
de
co-signé
2018.
Avec
exactement.
Magali Lassauvage, sur cette question, effectivement, elle part de ce qui est dans les collections aujourd'hui des musées occidentaux, mais ces collections peuvent être issues de spoliations nazies, de pillages coloniaux, mais aussi parfois du marché de l'art, même si les termes peuvent en paraître inégaux. Est-ce que ça peut prêter à confusion, ou au contraire, est-ce que ça permet de montrer quelque chose des lieux et de l'importance des lieux là où ça manque et là où ça se trouve?
C'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange de mélanger le portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Klimt, par exemple, avec la reine Bangwa du Cameroun, qui ont des histoires complètement différentes, de mêler les spoliations nazies au sac du palais d'été de Pékin par les Britanniques. Et en même temps, je pense que le point commun dans tout ça, c'est qu'on voit à quel point les œuvres d'art, les objets précieux peuvent être pris en otage par des idéologies et servir des projets politiques, des projets idéologiques, sans parler des projets financiers, évidemment, parce qu'il y a aussi, évidemment, l'accumulation de capital de l'Europe, par exemple, donc pendant la colonisation, qui était non seulement, évidemment, d'abord les marchandises, d'abord les ressources naturelles des pays, mais aussi, donc, les œuvres d'art, qui, en fait, finalement, sont traité un petit peu de la même manière, on voit à quel point, en fait, c'est pris dans des combats idéologiques. Et ça, je pense que c'est assez clairement dit dans le livre. On voit aussi les énormes paradoxes, en fait, qu'il peut y avoir dans la justification occidentale à ces saccages. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'archéologie, on voit qu'il y a des régions entières qui ont été mises à sac par des armées, puis par des archéologues qui sont passés juste après eux, qui ont ramené des œuvres dans les musées européens, et qu'en on prétendait que ces pays-là n'avaient pas, de toute façon, étaient devenus, par exemple, je pense à l'Égypte, étaient devenus de toute façon trop arriérés, en gros, intellectuellement, pour pouvoir s'occuper bien de ces objets, et qu'il n'y avait qu'en Europe qu'on pouvait avoir des scientifiques assez aguerris pour prendre soin de ces objets, pour les étudier, etc. Alors qu'en fait, la prise de ces objets provenait d'une violence, d'une barbarie, en fait, qui était quand même claire. Donc, en fait, il y a...
Oui, ce qu'on voit, c'est que ce discours sur la protection des objets, le fait même quasiment de les sauver,
voilà, les sauver.
Demeure quand même assez actif.
De les sauver de la barbarie en étant soi-même barbare, en fait. Enfin, je veux dire, il y a quand même elle montre très bien ce paradoxe, en fait, qui est devenu aujourd'hui, je pense, pour nos sociétés, complètement insupportable. Et en fait, c'est plus possible, en fait, de réfléchir comme ça. En fait, c'est plus possible de dire que les pays d'Afrique ne peuvent pas s'occuper de leur propre patrimoine. C'est plus possible de dire à une famille de juifs, par exemple, enfin d'héritiers juifs, de leur dire on vous rend vos œuvres, mais si c'est pour aller les vendre chez Christie's, en fait, non, ils en font ce qu'ils veulent. En fait, ça appartenait à leurs aïeux, ils en font ce qu'ils veulent. Enfin, en fait, c'est plus possible de dire nous, en fait, on sait s'occuper des œuvres, nous, on sait les mettre en valeur. Et alors, il y a aussi tout ce mythe du musée universel qui tombe. C'est-à-dire que le musée universel, c'est pour qui ? C'est en fait, c'est, si vous avez la chance d'être à Paris, de pouvoir aller visiter le Louvre, de dire en fait, mais on les montre à tout le monde. Mais en fait, non, c'est pas tout le monde qui va au Louvre, en fait. Donc, toute cette condescendance occidentale, toute cette supériorité quand même, qui préside en fait à la formation des musées et qui continue, parce qu'on a, il y a encore 10 ans, une dizaine d'années, il y a eu cette fameuse lettre des directeurs des plus grands musées du monde, du Met au Louvre, etc., qui disait, mais les restitutions, attention, ça va trop loin, c'est nous qui savons préserver les œuvres, c'est nous qui savons les montrer, etc., c'est nous qui les avons, qui avons enrichi leurs connaissances. En fait, ça, c'est fini, il faut arrêter maintenant avec ça. Et ça, elle le dit de manière assez subtile avec tous ces exemples, et je trouve ça assez bien d'avoir réussi à résumer ça de manière assez claire.
Oui, sans rentrer justement uniquement dans la manière dont souvent le débat est constitué. Elle choisit quand même, je voudrais revenir sur ce terme que vous avez employé à sa suite, Margot Nguyen, de translocation, pour qu'elle préfère à tous les termes de pillage, spoliation, appropriation. Il faut savoir que c'est à l'origine un terme de chimie génétique qui désigne un échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation. Et donc, c'est un échange impliquant des mutations. C'est assez joli comme idée. Elle dit que ça dépolitise pas les choses. Néanmoins, est-ce que le terme n'est pas un peu neutre parfois par rapport à certains des parcours qu'elle montre elle-même ?
Ce qui est assez beau, c'est qu'elle arrive à montrer l'importance d'être proche de sa mémoire et tout ce qu'elle nomme, donc la mise en scène de la présence, de l'absence, ou encore les recherches de ce groupe de recherche en Allemagne avec lequel elle est en lien, qui ont créé cet atlas de l'absence, en fait, qui recense les objets donc, qui ont été pris par l'Allemagne au Cameroun. Et je trouve que justement, c'est très subtil d'avoir cette ambition de penser le manque. Et elle nous met sur la voie, comment donner encore plus d'ampleur à cette recherche. Elle parle d'une chercheuse égyptologue qui s'appelle Monica Anna et qui travaille sur les contextes extractifs des fouilles archéologiques. Donc moi, je trouve que justement, en utilisant ses propres concepts et ses propres termes, elle donne la voix et elle donne de l'espace aussi à plein d'autres chercheuses qui mènent ces recherches sur le manque, l'absence, l'éloignement de ces objets, ou à contrario, et ça s'inscrit, je pense que ça résonne très bien avec d'autres artistes ou intellectuels ou chercheuses qui vont plutôt penser le retour de ces objets. Et je pense au très attendu film de Mati Diop d'Ahomé et de montrer à quel point translocation, relocation, dès qu'il y a mouvement de ces œuvres d'art, en fait, ça produit quelque chose de très fort, en fait. Et quelle que soit la manière dont on documente ce départ, ce retour, la tâche actuelle est de mesurer l'impact de ce que nous font ces œuvres d'art.
Vous évoquiez à l'instant le film donc de Mati Diop qui vient d'obtenir l'Ours d'or à Berlin. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que le cinéma quasiment a été, y compris le cinéma très grand public, a été presque précurseur dans certaines des questions qui se posent aujourd'hui. Alors, pas forcément avec des bons films, mais elle parle de Monuments Men, donc réalisé par George Clooney, ou d'un film qui s'appelle Chinese Zodiac, qui n'a pas été beaucoup distribué en France, mais réalisé et interprété par Jackie Chan, où Jackie Chan vient récupérer en France certaines œuvres pillées au Palais d'été à Pékin.
Alors oui, Monuments Men, il faut savoir que c'est un très mauvais film, à mon sens en tout cas, et qui certes essaye de raconter un peu cette histoire, mais c'est très caricatural. Les Américains, évidemment, sont formidables. Enfin, ils ont tout compris. C'est vraiment la civilisation supérieure qui arrive pour sauver l'Europe de. Enfin bon. Donc, je pense qu'il faut un petit peu limiter la référence à ce film. Pour le film de Jackie Chan, il est peut-être pas très connu en France, mais c'est quand même un énorme blockbuster en Asie et aux États-Unis aussi peut-être, mais en tout cas c'est un film qui par ailleurs a quand même une audience énorme. Nous on s'en rend peut-être pas compte en France.
Et un discours très intéressant.
Et un discours très intéressant et qui suit quand même, faut le bien dire, la politique officielle de l'État chinois. Donc qui reste quand même, c'est pas subversif en tout cas pour un Chinois. Voilà. Mais moi, il y a quelque chose que je voulais souligner d'ailleurs par rapport à ces choses qui sont très connues du public, c'est qu'on ne parle quasiment pas des marbres du Parthénon qui sont au British Museum et qui sont l'exemple le plus connu, le plus médiatisé dont on a... Dans l'introduction, je crois qu'elle elle mentionne rapidement.
Elle mentionne la manière dont Lord Byron avait critiqué la manière dont Lord Elgin avait ramené les frises du Parthénon.
C'est assez rapide.
Justement, en disant que ce discours critique venu de certains occidentaux avait complètement été effacé au profit d'une appropriation sans contestation, même si aujourd'hui, il y a quand même vraiment des grandes discussions en Grèce, en tout cas.
Alors que c'est vraiment l'exemple le plus connu, dont beaucoup de gens connaissent l'histoire, et qu'il y a très régulièrement effectivement des allers-retours diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Grèce à ce sujet-là. Et là, c'est assez curieux qu'elle n'en parle pas, je trouve, parce que...
On a l'impression que justement, elle a voulu peut-être éviter le sujet le plus principal pour s'intéresser à des modes un peu plus différents. Parce que moi, ce qui m'a aussi séduit
dans... Oui, mais c'est pas comme si les autres exemples n'étaient pas connus.
Enfin, non, mais sauf que ce que je trouve séduisant dans le livre, c'est qu'on voit à la fois que les grands cadres évoluent, de la compréhension, de la réception, de la manière de penser à la fois ce que l'objet fait au lieu où il arrive, où il est arrivé, et au lieu où il manque, mais en montrant que malgré tout, il reste du cas par cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer une fois pour toutes la manière de faire. Avec les différents modes d'appropriation, les différents modes de présentation et des fois des questions. Elle dit même qu'il y a parfois dans des langues parlées dans les régions victimes de dépossession où les termes de musée et de patrimoine sont intraduisibles.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que chaque chapitre se termine par des questions. À qui appartient l'hôtel de Pergame, par exemple? Est-ce qu'il appartient, donc, sachant que Pergame, c'est en grec, mais en Asie mineure, donc en Turquie actuelle, donc est-ce qu'il appartiendrait aux Turcs? Est-ce qu'il appartient aux Allemands qui le conservent depuis un siècle et demi? Est-ce qu'il appartient à tous les archéologues et chercheurs qui l'ont étudié? Et elle pose des questions, elle ne donne pas de réponse, forcément. Et ça, je trouve ça très bien, en fait, ce côté, justement, pas autoritaire. Elle ouvre le débat, elle ouvre les questions, elle dit pas... Alors évidemment, bon, on sait qu'elle a œuvré et qu'elle continue à œuvrer pour la restitution, par exemple, des œuvres au Nigeria, au Cameroun aussi. Mais en tout cas, ça reste un débat ouvert. Et à la toute fin, dans la conclusion, elle fait une distinction entre possession et propriété. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la possession, c'est justement les marbres qu'on dit Elgin, enfin en tout cas les marbres du Parthénon, sont dans la possession du British Museum à Londres, enfin de la Grande-Bretagne. Mais la propriété, ce serait le droit légal, en fait, sur ces œuvres. Et ça, cette propriété, elle peut être discutée. La possession, bon, de fait, elle est aujourd'hui en Grande-Bretagne.
Et l'avantage de la propriété, c'est qu'elle peut être divisée. Il y a des propriétés, on peut imaginer une propriété intellectuelle, une propriété... Enfin, voilà, c'est un concept juridique qui se divise. Margot Nguyen, d'un mot.
Le journal des translocations... En effet, il montre une voie juste, je pense, sur comment est-ce que l'histoire de ces objets en fait, peut amener à réparer par la justice dans le présent. Donc ça, je suis très touchée. Et puis j'aime aussi l'humilité qui est la sienne, parce qu'elle dit à plusieurs reprises que la question de la beauté est assez rhétorique. Et c'est vrai, c'est plus un fil rouge pour répéter à la fin de chaque chapitre la question. Et donc je trouve que la place qui est laissée à ce concept est très humblement mise à sa place.
À qui appartient la beauté de Bénédicte Savoie? C'est publié aux éditions La Découverte. Merci infiniment à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beune.